cinquième et dernier entretien avec André Markovitch et Françoise Morvan, traducteurs et traductrices.
André Markovitch et Françoise Morvan, selon vous, qu'est-ce qui sépare théâtre et prose, la prose du récit, du roman et de la nouvelle? Françoise Morvan.
À mon avis, pas grand-chose. Puisque parfois, Tchekhov est parti de ses nouvelles pour faire une pièce de théâtre. Parfois, on a la nouvelle, la pièce de théâtre. Simplement, comme c'est quelqu'un de très agile, qui est capable de faire n'importe quoi avec ce qu'il a, c'est un petit peu une équation qui résout de manière différente. Donc, on a les deux versions d'une même donnée.
Vous pensez à quelle nouvelle ?
Bah, par exemple, nous, ce qu'on a fait en traduisant le théâtre de Tchekhov, on est tombé sur une pièce jusqu'alors inédite, La nuit avant le procès. Et ça, c'est comme une espèce d'énigme que Tchekhov n'a pas réussi à résoudre. Donc, il reste la pièce qu'il n'a pas terminée. On a la nouvelle, qui est du genre comique, et on a la pièce, une pièce en un acte, et on voit, sérieusement, on a essayé de la terminer, et on voit vraiment pas comment faire.
Bon, alors, essayez de nous raconter la nouvelle.
La nouvelle? En soi, c'est pas tellement intéressant, hein. Je dirais que des voyageurs se rencontrent au cours d'un voyage dans une gare complètement minable, et un type qui se rend au tribunal, parce qu'il s'est rendu coupable de plusieurs escroqueries, fait du gringue à la femme d'un personnage qui voyage en même temps, qui a l'air de quelqu'un d'important. Et le résultat, c'est que c'est le juge. Donc, là où Tchekhov, c'est... Bon, la nouvelle est complètement hilarante, ça se termine par le procès. La question, c'est que à partir du moment où il avait fait en sorte que le juge ne le reconnaisse pas, ensuite il n'arrivait plus à faire la scène de procès. Mais c'est très amusant, parce que on voit là sur le champ la manière dont Tchekhov prend les données dont il dispose, et ensuite les projette et écrit avec une rapidité incroyable. C'est très léger, c'est très intelligent. Et ensuite, il voit lui-même qu'il ne va pas pouvoir résoudre, donc il arrête.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on retrouve de la nouvelle dans la pièce?
On retrouve tout le début. On retrouve des dialogues. Et simplement, le théâtre, c'est beaucoup plus elliptique. Mais ce qui est passionnant, c'est la manière dont il commence par une pièce comme Ivanov, qui rencontre un semi-triomphe, un semi-scandale, et dont il va ensuite faire une épure. C'est ça qui est prodigieux. Ou encore entre L'homme des bois et Oncle Vanya. C'est le même matériau, et quand on travaille, puisqu'on a traduit les mêmes pièces avec les mêmes mots, et en essayant de mettre en italique toutes les variantes, parfois il change une virgule. C'est à la fois une conception qui est très très large de la pièce. C'est complètement génial comme idée. Le poème, si l'on veut, l'idée, c'est quelque chose de prodigieux. Et à la fois, on lui dit ça va pas, alors immédiatement il va rechanger complètement. Il est capable, on lui dit pour la cerisée qu'il faut, le deuxième acte ne va pas. En une après-midi, il refait complètement. Avec une modestie incroyable, qui l'amène en fait à écouter des gens qui sont pas à son niveau. Mais bon, c'est ça qui est intéressant avec lui.
Comment superposer L'homme des bois et Oncle Vanya, justement? Essayez un peu de nous décrire l'homme de la prose et l'homme du théâtre.
L'homme des bois, c'est une pièce qui n'est pas souvent jouée, parce que ça, on considère que c'est le brouillon d'Oncle Vanya. Ce qui est absolument pas le cas. Simplement, comme c'est une pièce qui a été mal reçue, Tchekhov a ensuite essayé de suivre les conseils qui lui ont été donnés. Et c'est là qu'il y a un coup de génie, en quelque sorte. Puisque c'est au passage entre L'homme des bois, qui est une pièce sur la mémoire, sur l'enfance, qui se termine par un dernier acte dans la forêt au bord d'un moulin. Enfin, qui est entre, c'est une sorte de nouvelle en expansion. Et il va passer à Oncle Vania, et alors là, c'est les grandes pièces qui commencent.
C'est-à-dire ce qui peint la grande différence qu'on a vue entre ces pièces-là, entre Platonov, Ivanov et l'homme des bois d'une part, et après Vania, la mouette et les trois sœurs d'autre part, sans parler de la cerisée qui est encore autre chose, c'est que on s'est rendu compte que Oncle Vania était écrite sur ce qu'on appelle des motifs, des répétitions de mots qui sont diffusés chez tous les personnages et dans plein de sens différents. Et dont on peut dire en quelque sorte que Oncle Vania est une pièce sur ces mots-là. Dans Oncle Vania, il y a deux mots essentiels. C'est le mot prekrasny, qui veut dire magnifique, splendide, ce qu'on veut, et le mot poshly, qui veut dire banal, vulgaire, etc. Et ça, c'est tous les personnages se répètent ces mots-là, se renvoient, se donnent ces mots-là. En quelque sorte, Oncle Vania est une pièce sur le fait que la vie est à la fois splendide et banale, ou banale et splendide, en même temps. Le matériau est celui de l'homme des bois. Mais dans l'homme des bois, c'est une pièce dans laquelle il y a une action, d'ailleurs très bizarre, puisque le personnage principal meurt au troisième acte, et qu'il y a un quatrième. Mais enfin, il y a une action et les personnages se parlent.
Et qu'est-ce qui se passe au quatrième ?
Eh bien, les gens sont bien. Ce qui, d'ailleurs, reprend le début des trois sœurs. Le père est mort, et finalement, ça va. Et voilà. Et donc, les personnages se parlent, il y a de vrais dialogues, c'est-à-dire que les gens essaient de comprendre ce qu'ils se disent. Dans Oncle Vania, François, c'est pas le cas.
Non, je pense que là, il y a dans Tchekhov, c'est une sorte de génie on peut pas dire qu'il mature, mais qui procède par épuration, par simplification. À partir d'Oncle Vania, on peut dire qu'on n'est plus dans un théâtre psychologique. Hein. Quand on dit qu'il s'est trompé parce que lui pensait que c'était drôle et que c'était des comédies, alors qu'en fait, ça fait pleurer, c'est triste, il y a la petite musique tchékovienne, etc. Non, c'est Oncle Vania, à partir, mais déjà de Platonov, qu'il a écrite à 18 ans, c'est vrai que c'est un théâtre qui est absolument comique. On peut le jouer de manière tout à fait drôle. C'est pas un théâtre qui est lent, c'est un théâtre qui est très très rapide et qui est très léger. Et quand il faisait des observations à Stanislavski pour dire « Mais enfin, je comprends pas, vous me plombez. » Nous, quand on a traduit, on a passé des après-midi à rire. Mais c'est tragique, c'est un rire.
Bien sûr.
C'est des gens qui se trompent tout le temps. Ils vont dire quelque chose avec.
Ils se trompent de quoi ? Ils se trompent de mots ? Ils se trompent de vie ?
Bah, de tout, ça dépend. Il y en a qui sont pris dans leurs gestes et dans leurs paroles, comme Epikhodov, par exemple, qui casse tout, qui s'embrouille dans ses paroles. Et il y a des personnages qui ont l'air de réussir, comme Lopakhine qui achète la cerisée, et qui est toujours à contre-temps. D'autre part, c'est tellement subtil chez Tchekhov. Il met un tout petit indice. Et bon, on le regarde, on se dit, mais c'est un peu bizarre. Et puis quand on se pose la question, tout le personnage apparaît dans sa vérité. Quand il dit de l'écrivain de la mouette, Trigorine, mais vous n'avez pas compris, dit à Stanislavski, mais vous n'avez donc pas compris. Je vous ai dit que c'était pas un faiseur, c'était pas. Il a un pantalon à carreaux. Stanislavski n'arrive pas à comprendre. Pourtant, c'est un personnage, bon, il a un pantalon à carreaux. Il va à la pêche, il croit pas du tout à son rôle de littérateur. Donc, Tchekhov, c'est ça, c'est un tout petit détail. Quelqu'un qui répond quelque chose à l'autre. Et puis, la réplique passe à côté, un comédien doit pouvoir le jouer de manière très marrante.
Et par exemple, pourquoi dans Oncle Vania, Elena Andreevna est sur une balançoire ? Rien que sur ça, on peut parler pendant des heures. Ou bien, quel est le premier geste d'Oncle Vania ? Il vient de faire une sieste, il se réveille, il rajuste sa cravate. Et sur ça donne, c'est des gestes qui doivent donner des indications fondamentales pour le jeu.
Mais pourquoi est-elle sur une balançoire ?
Et parce que personne ne peut s'asseoir à côté d'elle. Ça, c'est déjà une raison.
Sur une balançoire. En plus, sur le banc, il y a une guitare. Tout est centré autour de la guitare. Un jour, on a fait une émission sur la musique. de Tchekhov. Et on s'était pas posé cette question. Ouais. Et soudain, on a commencé à réfléchir à partir du début, donc de Platonov. On s'est rendu compte qu'il y avait trois instruments de musique. Et que dans Platonov, il y avait de toute façon au moins trois fois trop de choses. Ça dure 6 heures déjà. En revanche, dans Oncle Vania, on part de d'une guitare et ça va être la fin. Un instrument de musique qui circule, c'est fait exprès.
Et sur une guitare dont on joue pas bien. Et la nuit. Et donc voilà, ça aussi. Vous comprenez, c'est pas la question de dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est la question de le remarquer. Parce que personne n'a le droit de dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est très prétentieux de dire qu'est-ce que ça veut dire. Mais il faut voir qu'est-ce que c'est et dans quel contexte c'est. Et ça, c'est déjà énorme.
Je pense que, en fait, si Tchekhov est mal compris en France, c'est parce qu'on pense, on regarde pas assez, par exemple, la ponctuation. Il joue sur le décalage. C'est une pièce comme Les Trois Sœurs, là, on travaillait là-dessus. Quand on part de la ponctuation, on comprend que les souffles ne se posent pas du tout où on l'attendrait. Et qu'il n'y a pas de psychologie là-dedans, que la pièce n'est pas sur des personnages, mais l'incarnation des personnages dans le temps, des modulations. C'est comment dire, des modulations de lumière, des modulations de vie et de mort à l'intérieur des personnages. Une fois qu'on a compris ça, on n'est plus du tout,
Est-ce qu'il n'y a pas de discordance entre le temps et l'espace, entre les personnages qui seraient dans un autre temps, qui glisseraient à côté d'un autre temps?
Non, pas du tout, parce que précisément, quand on parle des motifs, c'est-à-dire de ces mots qui sont comme la trame qui passe de l'un à l'autre, c'est des pièces sur le langage, l'incapacité.
Et sur des pièces quand même, sur qui reposent sur le silence, sur le sommeil. Mais qui, malgré tout...
Il n'y a pas de sommeil. Jamais.
Il y a la pause, mais la pause, c'est le silence.
Le sommeil, la pause, c'est le moment de la vivacité la plus grande.
Ouais, je pense que ça se construit justement sur cette espèce ça se voit aussi dans la ponctuation, ça, où c'est modulé comme une musique par des pauses. Mais les pauses, c'est des silences aussi modulables, et où tout le monde est ensemble à ce moment-là.
Alors, la langue russe de Tchekhov, de quoi est-elle faite? De conversations entendues dans la foule, dans la rue?
Absolument. Je pense que ça, c'est une des choses les plus extraordinaires chez Tchekhov. C'est-à-dire, c'est un spectre de langage. Spectre, c'est un mot très, très moche.
Je l'aime beaucoup.
Oui, enfin, d'accord, mais pas pour Tchekhov. C'est toutes les langues qui se parlaient en Russie sont utilisées chez Tchekhov. Dans ses nouvelles. Donc, chaque catégorie de personnes, chaque âge, chaque personnage a sa propre langue. Et c'est une langue qui n'est jamais inventée. Ça, c'est, c'est-à-dire que c'est, il y a eu sans doute quelqu'un qui parlait comme ça. Ou plusieurs personnes qui parlaient comme ça. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, mais par exemple, dans les pièces, par exemple, on a commencé à travailler sur les trois sœurs, c'est une chose que je raconte souvent, mais moi, je connaissais déjà les proverbes latins. Et pourquoi je les connaissais, c'est pas parce que j'avais fait du latin, j'étais très mauvais en latin, c'est parce que ma grand-mère les disait.
En Russie.
En Russie. Et ma grand-mère est née en 1890. Donc elle avait 14 ans à la mort de Tchekhov. Et l'intelligentsia juive de Pétersbourg. Et c'était cette langue-là. Alors, c'est autre chose, comment c'est utilisé? C'est-à-dire que c'est justement, dans Les Trois Sœurs, c'est Kouligine qui parle comme ça. C'est-à-dire que c'est tout sauf l'intelligentsia. Mais justement, là est le côté génial de la chose. Et puis après, il y a toutes ces expressions. Par exemple, on nous a beaucoup parlé dans nos traductions, personne ne comprend quand on traduit « je suis dans les mirlancolies ». On a traduit ça comme ça, « dans les mirlancolies ». C'est un mot qui n'existe pas. En russe, « mirlichlundia » n'existe pas plus. Hein? Mais ma grand-mère disait, elle disait « я вся мирлихлюдная сегодня ». C'est-à-dire, je suis toute dans les mirlancolies aujourd'hui. Des choses comme ça. Ça se disait comme ça. Et puis, j'ai eu cette chance absolument incroyable d'entendre réellement, je pense, avec la langue de ma grand-mère, l'intonation. Et qui est une intonation qui a beaucoup changé maintenant. C'est plus du tout cette langue-là. Donc c'est ça qu'on essaie de retrouver. une espèce de je sais pas comment expliquer ça, quoi, mais c'est une langue russe d'une richesse extrême, sans exemple.
Pour vous, dans ce théâtre, dans ce monde, il y a les écrasés, les écraseurs, les hommes et les femmes.
Il y a les écrasés qui sont des écraseurs et les écraseurs qui sont des écrasés. C'est... Il y a des gens qui prennent l'espace et d'autres qui en veulent, par exemple dans la mouette.
Je pense que en fait, ça se pose même pas comme ça. Ce qui est fascinant quand on, parce que bon, maintenant on a fait beaucoup de répétitions. Hein. Par exemple, je sais pas, on a dû travailler au moins sur 6 fois sur la Cerisaie. Donc normalement, quand on commence le travail de répétition, on devrait s'ennuyer parce qu'on l'a déjà trop lu. Mais c'est pas arrivé une seule fois.
Non, contrairement.
Et à chaque fois, on voit mieux les pièces de l'intérieur. Et à quel point ce qu'en dit Tchekhov, c'est absolument vrai. Puis que il essaie de se faire entendre, il n'arrive pas. Les gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Mais quand il parle de ses personnages, qu'il n'arrive pas toujours à... Mais il veut pas non plus s'expliquer. Donc, il ne le dit pas. Et néanmoins, on comprend que ce sont pas les écrasés, les écraseurs. En fait, il y a des personnages qui vont vers les autres, c'est presque tous, qui essaient dans un élan de lucidité de se dire. Et puis, il y a ceux qui coupent. Donc, il y a ou ceux qui, à un moment ou à un autre, coupent. Et il y a ceux qui ont comme fonction dans la vie d'arrêter la vie. C'est plutôt des élans de vie. Les personnages ne sont pas des personnages. Ce sont des élans de vie dans un moment du temps. Et avec des gens qui leur pompent l'air.
Ça, c'est le grand sujet de la mouette. La mouette, c'est sur ça.
Oui. C'est pour ça que c'est un peu... Tchekhov, il pouvait, par exemple, prendre une seconde, par exemple, de ce qui se passe là dans le studio, ça pouvait faire une pièce. C'est un moment de vie, avec des gens qui essaient de dire le mieux possible ce qui est.
Mais comment
réalité.
Elle évolue, cette langue, au fil des personnages et au fil des pièces? Est-ce que c'est toujours la même, non. Ou bien au contraire, il y a une ouverture ou une fermeture?
Ça ne se pose pas, je pense, comme ça. Il y a, d'après ce qu'on peut voir, nous, 3 grandes étapes. Les premières étapes, c'est Platonov, donc cette pièce immense qu'il écrit à 18 ans, qui est en. Suffirait à en faire le plus grand dramaturge russe, dans lequel il y a absolument tout, qui est la matrice de toute l'œuvre, prose et théâtre. Après, Ivanov et L'homme des bois. Ce sont des pièces dans lesquelles, qui se définissent par une psychologie, c'est-à-dire des rapports de personnages, par une étude de caractère et un développement du caractère. En gros, des pièces plus ou moins traditionnelles, absolument pas traditionnelles, mais basé sur un... Par exemple, les scènes sont délimitées par entrée-sortie des personnages. Après, il y a 3 autres pièces qui sont, dans l'ordre, Vania, La Mouette et Les Trois Sœurs, qui sont absolument pas construites sur ça, dans laquelle il n'y a pas de scène, mais que des actes, dans laquelle les pauses dramaturgiques sont justement des pauses marquées comme telles. Il n'y a aucun échange entre les personnages, qui sont des pièces uniquement sur le langage, où les gens ne se parlent pas. Et puis, il y a une 3e époque qui est la Cerisaie, qui est absolument autre chose, qui n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle.
Et ce début, c'est marqué par quoi? Par un renouvellement et des personnages et de la langue?
Ben ça, c'est la même chose, mais c'est complètement épuré. C'est-à-dire, tout est devenu beaucoup plus intelligent et subtil. C'est plus du théâtre, c'est comme la phase d'après, c'était ce que disait Tchekhov, il allait faire une pièce sur le pôle Nord. Il n'y aurait rien. Et là, voilà, la Cerisaie, ça va vers la mort. Mais c'est quand on essaie de comprendre le schéma des espaces, par exemple, ou la construction à partir des poses, ou des images. Par exemple... On s'est demandé un jour comme ça, bon, puisqu'on vit un peu avec Tchekhov, donc à un moment, Lyubov se demande pourquoi aller au restaurant comme ça, on a mangé trop, on a parlé trop, les nappes sentaient le savon.
Pourquoi elles sentaient le savon?
Une nappe blanche, donc, au moment où ils n'ont plus d'argent et ils vont tout perdre, ils vont au restaurant à la ville voisine. Les nappes sentaient le savon. Eh ben, une fois qu'on a compris ça, on a compris.
Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Et comment vous l'avez compris? Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre?
Ah ben, si, d'abord, dans Tchekhov, quand il y a un détail, on peut être sûr que c'est comme une bille d'agate et tout va se refléter dedans. Donc, les nappes sentent le savon, ça signifie que c'est tout le personnage est là, déjà. Entre, justement, ces délimitations d'espace que sont enfin, comment dire, chaque personnage envahit le champ des autres ou se laisse rétrécir par les autres. Son champ de conscience a été complètement envahi et saturé par les autres, et même l'odorat a été saturé par une odeur de savon qui était vulgaire.
Trop propre.
Les nappes doivent être blanches, mais ne rien sentir, puisqu'on est là pour manger.
Alors, la mouette est une pièce qu'il avait tout entière dans sa tête, mentalement, et il lui fallait le temps, la tranquillité pour l'écrire. Par contre, la cerisée a été extrêmement difficile à naître à elle-même. Quelles étaient, au fond, les difficultés pour écrire cette pièce ?
Ben, le problème avec Tchekhov, mais ça c'est encore quelque chose qu'on ne voit pas suffisamment quand on parle de lui, c'est que c'est quelqu'un qui est mourant. La tuberculose, c'est une maladie épouvantable, enfin, comme je l'ai eue. Je peux en parler et je peux vous dire que c'était vraiment pas. C'était pas 15 ans de tuberculose. C'est une maladie qui épuise à l'intérieur et qui laisse pas de force. Or, le fait d'aller à Sakhalin en ayant la tuberculose, mais Tchekhov, c'est quelqu'un d'héroïque. C'est quelqu'un qui est dans un héroïsme permanent, qui ne se plaint jamais ou qui ironise. Il le fait par l'humour. Il parle de ses poumons avec humour. Mais quand il écrit La cerisée, il meurt.
Et il parle de ça.
Il parle. C'est la cerise, c'est le bruit du buteur étoilé, le son, l'étrange son qu'on entend de héron dans un marais au loin. C'est le souffle, c'est qui résonne, c'est la cage thoracique qui creuse.
Selon vous, la cerise est faite de quelle énergie? Elle pourrait s'appeler mélancolie, nostalgie, absolument. Rêve d'enfance.
Absolument pas.
Mais non, c'est une comédie.
Absolument pas.
C'est vrai que c'est une comédie. On a traduit, on est...
Sombre.
Pas du tout.
Mais non, ils sont contents de partir.
Mais vous savez...
Et Tchekhov disait bien, je comprends pas pourquoi il me le joue mon dernier acte en 40 minutes, alors que c'est écrit que ça fait 20 minutes. C'est gai. Il pleure un petit peu.
Mais bien sûr, il y a un signe.
Non, c'est quand même le rêve qui disparaît.
Pas du tout.
Ah bah oui, bien sûr.
Non, mais le rêve,
c'est bien...
Non, le rêve a déjà disparu. C'est ça qu'on voit pas dès le début. La cerisée, on ne la voit pas dans la pièce. Il y a un signe qui le montre. Varia ouvre la fenêtre et dit « La cerisée est magnifique, les oiseaux chantent dans la cerisée, les étourneaux qui chantent. » Et alors moi, je traduis ça, vous savez, donc je fais le mot à mot, Françoise après... Françoise ne parle pas russe, donc on traduit à plusieurs étapes, on pourra en parler. Bon, et Françoise me dit, mais c'est vraiment des étourneaux? Je dis, bah oui, Skvartse, c'est des étourneaux. Je dis, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire que des étourneaux chantent? Vous avez entendu des étourneaux qui chantent? Et alors, je me dis, attends, mais c'est vrai, c'est pas... Des étourneaux dans une cerisée, ça fait quoi? Ça fait plus de cerises. Et le cri des étourneaux, on habite à Rennes, on a été envahi par des étourneaux. Mais c'est affreux. C'est-à-dire que Varia est passée d'abord, c'est loin, sinon elle ne pourrait pas dire que c'est beau. Et d'autre part, elle est passée du côté de l'esthétique et pas du côté du domaine. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans le domaine, que la question de la cerisée n'est pas comment garder la cerisée, mais comment, en quelque sorte, partir et vivre avec. La mort, elle est déjà... Elle est au début de la cerisée.
Moi, je pense que dans Tchekhov, le moindre détail est très important. En plus, c'était quelqu'un qui était très farceur. Donc, quand il met les étourneaux, et les étourneaux ne sont pas là pour rien. Des étourneaux dans les arbres fruitiers, pour quelqu'un qui vient de Bretagne, comme moi, c'est le fléau intégral. L'économe qui dit, oh, comme le doux son des étourneaux, comme c'est gai, y a un problème. Tout est déjà loin, tout est déjà perdu. Qu'on a connu, on sent ça, c'est tellement drôle d'être sur le tragique et de surfer dessus, comme ça. Et ça, Tchekhov, c'est ce qu'il voulait dire.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que, bien sûr, c'est drôle. Mais d'un autre côté, c'est absolument tragique. Mais pour le personnage, c'est vrai que c'est beau. C'est-à-dire que l'actrice ne doit pas jouer ça comme une farce. La farce n'est pas dans le jeu de l'actrice, mais dans le résultat, dans la vision.
C'était À voix nue, Anton Tchekhov et l'expérience théâtrale, réalisation Clotilde Pivin.